Certains sont considérés comme des cold cases, des affaires non élucidées. D'autres, au contraire, ont connu un épilogue judiciaire. Ce sont les crimes de la route. Leur point commun, tous ont eu comme décor macabre une route ou une autoroute, la fin du voyage pour des victimes innocentes, des femmes ou des jeunes filles pour la plupart. Les crimes de la route, épisode 5, l'autoroute des larmes au Canada. C'est un ruban de bitume long de 724 km qui file au milieu de forêts inquiétantes et de lacs gelés. Une autoroute à quatre voies qui relie les villes de Prince Rupert et Prince George. Nous sommes en Colombie-Britannique, une province située à l'extrême ouest du Canada, au nord de l'état de Washington, aux États-Unis. Là-bas, comme chez nous, les autoroutes ont des numéros. Celle-ci est l'autoroute 16, mais c'est sous un autre nom qu'elle s'est fait connaître, un nom tristement célèbre, la Highway of Tears, l'autoroute des larmes. Entre 1969 et le milieu des années 2000, une vingtaine de jeunes femmes et de jeunes filles, mais sans doute beaucoup plus, ont été sauvagement assassinées ou ont mystérieusement disparu le long de cette route maudite. La plupart des victimes étaient des autochtones qui vivaient dans des villages traversés par l'autoroute 16. Plusieurs d'entre elles faisaient du stop au moment de leur disparition. À ce jour, l'enquête n'a permis de résoudre que quelques affaires et plus de 50 ans après le premier meurtre, la plupart n'ont pas été résolues. Mon invité est Stéphane Berthomet, ancien policier et auteur du podcast « L'ombre du doute ». Bonjour Stéphane Berthomet.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes ancien officier de police, spécialiste de la lutte antiterroriste, reconverti en auteur de podcast, ou plutôt de balado, devrais-je dire, puisque vous vivez à Montréal, au Québec, et que c'est ainsi qu'on appelle ce type de production sonore au Canada. Vous êtes l'auteur notamment de L'ombre du doute, un podcast qui revient sur des enquêtes non résolues au Canada. Vous connaissez bien à ce titre l'affaire de l'autoroute des larmes dont on va parler aujourd'hui. Une affaire dont les faits s'étirent sur plus de 40 ans. Je l'ai dit, au moins 18 jeunes filles, au moins, disparues ou assassinées, peut-être plus. Pour nous permettre de bien comprendre et avant d'entrer dans les détails, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire quel est peut-être d'ailleurs toujours l'impact de cette histoire au Canada?
Bien, en fait, ce qui est intéressant, c'est de dire ce qui a été l'impact et ce qui est aujourd'hui l'impact de ces dossiers-là. Parce qu'il y a vraiment une très, très grosse évolution. On le verra, ces dossiers remontent pour la plupart aux années 70, commencent dans les années 70, et à l'époque, et durant plusieurs décennies, on peut presque le dire, ces dossiers avaient très peu d'impact. Visiblement, la place médiatique qu'on accordait à ces affaires-là était très peu importante. Et ça a beaucoup évolué avec le temps. Aujourd'hui, ces dossiers ont non seulement un impact sur l'univers policier, mais aussi sur l'univers social ici au Canada.
Alors, parlez-nous du décor. À quoi ressemble cette autoroute des larmes? On est en Colombie-Britannique.
Cette autoroute des larmes, et on comprend pourquoi on l'appelle comme ça à cause de ce qui s'y est produit, c'est vraiment un immense ruban de bitume qui traverse le Canada et qui se rend sur la côte ouest à travers une province qui est la Colombie-Britannique. Cette province, c'est une province immense. Vous connaissez évidemment les dimensions du pays ici, et elle fait la frontière avec les États-Unis. Mais elle a aussi une particularité, c'est qu'elle est extrêmement boisée, qu'elle est assez peu dense en population, même si elle a quand même des villes importantes. Sa capitale, Victoria, est une ville très importante. Et une des villes dont on va parler est une des villes moins importantes, Prince George, qui est une ville d'à peu près 70 000 habitants. Donc c'est à la fois un endroit où on trouve des villes extrêmement modernes, extrêmement denses, et des endroits qui sont très dépeuplés.
Et puis on peut le préciser, c'est une autoroute de transit, hein. C'est une autoroute de transit commercial qui est beaucoup empruntée par les poids lourds notamment.
Oui, c'est très juste. C'est une autoroute qui fait à la fois le trajet entre le nord et le sud. Et comme je vous le disais, les États-Unis, c'est frontalier avec les États-Unis. Donc, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se rendent aux États-Unis. Mais en même temps, c'est un trajet au sein même du pays au Canada, d'est en ouest et inversement. Donc oui, c'est une autoroute qui est très, très, très occupée, à la fois d'ailleurs par les gens qui font du transport, mais aussi par les gens qui se déplacent. Il y a beaucoup de gens pendant une période qui faisaient de l'autostop.
Alors, on va parler des victimes. Gloria Moody, c'est le nom de la première victime. Elle a 26 ans. On est le 26 octobre 1969. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé?
Bien, la disparition de Gloria Moody, c'est vrai que c'est, elle est considérée comme la première victime de cette série, bien que on sache depuis qu'il y a très certainement des victimes qui n'ont jamais été répertoriées dans ces affaires-là. Gloria Moody, elle disparaît après une soirée passée avec son frère. Ils sortent, ils font une sortie, ils vont dans des bars et à la sortie d'un des bars, ils rentrent visiblement à pied. Son frère pense qu'elle est derrière lui. Et elle disparaît. Elle est retrouvée une journée plus tard. Elle a été assassinée. Elle a été agressée sexuellement. Elle a été violemment battue. Il y a des suspects qui sont identifiés, mais ça ne va jamais jusqu'à des accusations. Il y a des rumeurs qui courent pendant très longtemps, mais malheureusement, on ne trouve rien. On ne trouve pas d'éléments sur ce dossier-là dans les premiers temps.
Les meurtres après celui de Gloria Moody s'enchaînent. Micheline Père, une autostoppeuse de 18 ans, est tuée l'année suivante en 1970. Trois ans plus tard, Gail Ways et Pamela Darlington, toutes deux âgées de 19 ans, sont retrouvées mortes non loin de l'autoroute 16. Elles aussi faisaient du stop. En 1975, on retrouve le corps de Monica Ignace, qui avait disparu l'année d'avant, probablement sur le chemin de l'école. Elle n'avait que 14 ans. Il faudra attendre 10 ans pour que la GRC, la Gendarmerie Royale Canadienne, s'intéresse enfin à ces meurtres et se décide à ouvrir une enquête.
Il y a plusieurs raisons qui expliquent le fait que ces dossiers-là n'ont pas été pris à leur juste mesure à l'époque. Il faut comprendre que dans les années 70, les enquêtes policières n'étaient pas ce qu'elles sont devenues ensuite. Les moyens n'étaient pas les mêmes. Le fait que le territoire était extrêmement étendu aussi posait certaines problématiques. Mais tout ceci n'excuse absolument pas le traitement qui a été accordé à ces dossiers, dont on sait aujourd'hui qu'il a été différent de certains autres. Et très certainement à cause de la nature même des victimes. C'est-à-dire que, on le sait, la plupart des victimes sont des autochtones, des femmes autochtones, et vraisemblablement, ça a joué, et malheureusement, dans l'approche des policiers, qui a souvent considéré qu'il s'agissait de fugue, qu'il s'agissait peut-être d'affaires intrafamiliales, et qui a sous-estimé volontairement, dans certains cas, ou involontairement dans d'autres, l'importance de ces dossiers. C'est absolument dramatique, je veux dire, c'est inexplicable, mais c'est comme ça qu'on sait aujourd'hui que ces dossiers-là n'ont pas été traités à leur juste mesure à l'époque.
Alors c'est important parce que c'est vraiment la clé de cette affaire, des victimes autochtones. Peut-être qu'on peut rappeler qui sont ces jeunes femmes autochtones qui vivent au Canada.
Bah, les autochtones, c'est des gens qu'on appelle les premiers peuples, les premières nations. Il y a les premières nations sont composé de plusieurs communautés. On en compte plus de 600 au Canada. Et ces communautés-là, ben c'est des communautés qui étaient installées bien avant que les Blancs, entre guillemets, les Européens et d'autres n'arrivent et ne s'installent au Canada. Donc, ce sont les nations. On compte à peu près, selon les recensements, près de 2 millions de personnes qui sont identifiées comme autochtones. Donc, c'est une population importante. C'est une population qui est, et ça compte aussi dans l'explication de ce qui s'est passé, qui est souvent dans des endroits qui sont spécifiques, c'est-à-dire qu'on a appelé des réserves pendant très longtemps et qu'on appelle encore des réserves ou des territoires, et qui sont vraiment placés notamment dans des endroits où ils sont éloignés des centres-villes, éloignés des agglomérations, et donc qui a pour conséquence évidemment de les isoler et de les placer dans des situations où ils ont moins accès aux services et à tout ce que la société moderne peut produire comme moyen.
Et ce que vous nous dites en fait, c'est que si on parle un peu trivialement, c'est un peuple qui intéresse pas grand monde en fait à l'époque. Et ce qui explique la lenteur de l'enquête, voire des négligences.
Bon, écoutez, moi, je suis pas sociologue, donc c'est sûr que il m'appartient pas à moi de donner une explication sociologique là-dessus, mais c'est très clair, c'est un fait connu aujourd'hui que ces populations-là ont été sous-considérées, ont eu moins d'accès aux moyens, à la fois aux moyens légaux et aux moyens technologiques, aux moyens que fournisse la société. Vous savez, il y a encore beaucoup de communautés qui n'ont pas accès à l'eau. Ici au Canada, à l'eau courante. Donc, il est très clair, il est connu que de tous que, effectivement, il y avait une discrimination qui a été faite et que on a considéré pendant très longtemps, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans l'immense majorité des cas. Il faut l'espérer encore moins à l'avenir. Mais il a été considéré à un certain moment que les dossiers de ces gens-là étaient moins importants. Faut dire aussi que on se place dans le contexte d'une police des années 70. Cette police des années 70, elle est quand même extrêmement machiste, elle est quand même elle a quand même des a priori très lourds. Les femmes qui par exemple se livraient à des activités considérées comme à risque, la prostitution, étaient aussi sous-considérées par les enquêteurs. On a plusieurs dossiers, moi j'ai constaté très souvent dans certaines affaires que des jeunes femmes qui sortaient dans les bars ou dans les boîtes de nuit, ou qui se livraient à des activités de prostitution, ou qui fréquentaient des gens hors mariage, on trouvait un certain laxisme dans le traitement des dossiers, où on considérait que certainement elles avaient fugué avec leurs amants. Donc on ne mettait pas tous les moyens sur ces dossiers-là. Et ça, c'est un fait qui remonte vraiment à cette période-là des années 70.
En 2012, une enquête connaît un tournant important. La technologie dans la recherche de la preuve a évolué et un ADN est prélevé sur la robe de Colleen McMillan, une jeune fille violée et tuée près de l'autoroute des Larmes en 1974. Plus de 40 ans après les faits, cette découverte permet d'identifier l'auteur du crime, Bobby Jack Fowler, un dangereux délinquant sexuel américain mort en prison en 2006. En 2014, les progrès de l'ADN permettent de résoudre un autre meurtre, celui de Monica Jack, 12 ans, disparue en 1978. Elle est l'une des plus jeunes victimes de la Highway of Tears. Le suspect se nomme Gary Hendlon, et pour le pousser aux aveux, les enquêteurs ont recours à un procédé bien particulier, une opération Mr. Big.
Une opération Mr. Big, c'est une opération qui vise à faire croire à quelqu'un qu'il se trouve dans un contexte criminel, c'est-à-dire qu'il est avec d'autres criminels, et donc l'amener à se livrer et à faire des confessions sur ses crimes. C'est donc une procédure qui vise à le mettre en confiance afin qu'il s'incrimine lui-même. Évidemment, on comprend que tous les gens qui se font passer pour des criminels sont des agents de la GRC qui ont monté cette opération qu'on appelle opération Mr. Big. Et au cours de cette opération, qui était destinée justement à lui faire avouer ses crimes, Hendlon a avoué effectivement le crime de Monica Jack et est allé en procès, a été condamné à la prison à vie. Et ce que n'ont pas su d'ailleurs les membres du jury, parce que ça fait partie des procédures ici qui sont assez complexes, c'est que Hendlon a aussi ensuite été accusé du meurtre d'une autre jeune fille qui, elle, avait 11 ans, Catherine Marie Herbert, et que vraisemblablement, c'est durant ses aveux qu'il a non seulement avoué le meurtre de Monica Jack, mais aussi celui de la jeune Herbert âgée de 11 ans.
Un autre meurtrier, Cody Lechbokov, avouera 4 autres meurtres commis sur l'autoroute des Larmes entre 2009 et 2010. Cette fois, on est beaucoup plus tard. Ça fait en gros 6 affaires élucidées sur plusieurs dizaines et c'est bien peu. Qu'est-ce qui explique, à votre avis, qu'on n'ait pas trouvé les assassins ou si peu?
Il y a plusieurs explications qui font que il était très difficile, outre ce qu'on a dit, c'est-à-dire une absence de réelle volonté et de réels moyens dans ce type de dossier au départ. Mais il y a plusieurs raisons qui font que ça rend les choses très difficiles. D'abord, la superficie sur laquelle se déroule ce type de crime, une superficie immense. Ensuite, le fait que les corps sont abandonnés de façon disparate dans des endroits où ils restent malheureusement pour certains pendant des années, ce qui rend évidemment toute procédure médico-légale très complexe et toute identification d'un criminel encore plus complexe. Le fait que la plupart du temps, ce sont des crimes sans témoins. Les crimes de tueurs en série sont parmi les plus difficiles parce que les tueurs en série agissent de façon pour le policier ou pour la personne qui veut faire preuve de logique, de façon totalement illogique, c'est-à-dire indiscriminée. Il a ses propres critères de sélection, mais ça n'est pas compréhensible pour nous. On ne peut pas savoir que on a un raisonnement logique qui suit la pensée du criminel. Alors, ça rend l'enquête très difficile, l'absence d'éléments médico-légaux aussi, et puis le contexte, les années 70, on n'avait pas l'ADN, même les empreintes digitales étaient prélevées dans des conditions qui étaient très précaires. Je vais vous reprendre l'exemple que vous donniez de Legbokov, qui est très parlant. Cody Legbokov, il n'a pas été arrêté à la suite d'une enquête qui a mené à son identification. Il a été arrêté parce qu'il sortait d'un chemin de traverse et qu'il a été suspecté dans un premier temps de faire du braconnage et qu'au moment où il est contrôlé par les policiers, ils s'aperçoivent qu'il a du sang sur lui, que son véhicule a des marques de sang et il se fait arrêter et là, on remonte la piste de plusieurs adolescentes qu'il a assassinées et on découvre qu'on a affaire à un tueur en série. Alors, vous voyez combien les choses se sont passées avec une certaine dose de hasard quand même, malgré le fait qu'on est déjà à une période tout à fait contemporaine.
L'enquête est tentaculaire, complexe. On a vraisemblablement affaire à plusieurs assassins qui ont agi sur plusieurs dizaines d'années. En tout, plus de 60 000 personnes seront interrogées, sans parler des drones et des hélicoptères déployés pour les recherches. Le groupe chargé d'enquêter se nomme IPANA et il fait débat au Canada. Officiellement, IPANA a recensé 19 meurtres, un chiffre qui provoque la colère des populations autochtones qui évoquent de leur côté une quarantaine de crimes ou de disparitions.
Évidemment, on peut se poser la question de pourquoi l'équipe d'enquête IPANA n'en répertorie que 19. Eux, ils ont un critère de sélection qui est très particulier en ce qui concerne le regroupement des enquêtes. C'est-à-dire qu'en fait, l'objectif de ce groupe, c'est de sélectionner des dossiers pour les intégrer dans une équipe d'enquête spécialisée qui va travailler en essayant de faire des recoupements. Et pourquoi ils essaient de faire des recoupements? Parce qu'ils partent du principe que les victimes qu'ils sélectionnent sont des victimes qui ont des comportements à risque. On parle là de femmes qui se livraient à de la prostitution ou qui faisaient de l'autostop. Et on considère l'autostop comme un comportement à risque dans cette région et à cette époque-là. Et donc, compte tenu de ces principes-là, on se dit qu'on va peut-être tomber sur des cas qui ont été commis par les mêmes assassins. Et effectivement, il y a beaucoup d'autres cas qui, eux, ne rentrent pas dans la catégorie des crimes traités par IPANA, qui font débat parce que c'est pas parce que la personne ne faisait pas d'autostop qu'elle a peut-être pas été assassinée par l'un des tueurs en série qui est enquêté en ce moment par IPANA. Alors ça pose beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions.
En 2015, l'arrivée au pouvoir de Justin Trudeau est porteuse d'espoir pour les familles de victimes. Le Premier ministre canadien crée une commission d'enquête nationale, il débloque un fonds de 40 millions de dollars canadiens et engage un vaste plan d'éclairage et de sécurisation de l'autoroute 16. En 2020, une stèle en forme de totem représentant une femme est érigée en hommage aux victimes. Mais ce qui frappe le plus depuis quelques années, c'est la mobilisation des familles autochtones. La nouvelle génération dispose d'une nouvelle arme, les réseaux sociaux. Et elle se bat pour connaître la vérité.
Il faut dire aussi que il y a une pression sociale de plus en plus forte. Le fait que les populations autochtones ne soient pas traitées à l'égal de tout un chacun est de plus en plus difficile à soutenir pour les politiciens. Cette pression sociale fait que, justement, il y a des mesures qui sont prises, on essaye de mettre en place des choses. Il y a une très très large enquête qui a été mise en œuvre qui et vraiment d'une façon extrêmement brutale, a démontré combien les femmes autochtones avaient été victimes de et quel nombre faramineux de femmes autochtones, on estime le nombre à 1200, avaient été victimes d'enlèvements ou d'assassinats. Donc tout s'est fait, l'évolution de la société, l'arrivée des réseaux sociaux et donc du fait que les gens discutent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, de façon beaucoup plus massive de ces questions-là, tout ça a conduit effectivement à une prise en charge, une prise en compte beaucoup plus proche de la réalité de ces questions.
Et je crois qu'il y a les familles aussi hein, qui se sont beaucoup mobilisées. Il y a aussi une génération qui arrive. Vous parliez des réseaux sociaux qui se bouge beaucoup plus. Mais ça, on le voit dans d'autres affaires. C'est-à-dire que face à l'impossibilité pour les pouvoirs publics, les autorités en place de résoudre des affaires aussi graves, bah, en fait, c'est les citoyens eux-mêmes qui se bougent en fait.
Vous avez raison, puis ce qui est fascinant, c'est que on constate l'impact de l'évolution d'une société sur les enquêtes policières et sur la façon dont elles sont menées. Parce que si on se place dans la position des années 70, il ne viendrait pas à l'idée d'une famille de victimes de s'élever contre le travail policier et de contester ou critiquer le travail policier. Or, dans les années 2000, et aujourd'hui bien plus encore, le travail policier est questionné, regardé, analysé, les familles font des sorties dans les médias, sont interviewées dans les grands médias, et effectivement la pression sur la police est beaucoup beaucoup plus forte qu'elle n'a jamais été, et ça a beaucoup beaucoup joué. Il y a eu aussi des mouvements dans certains dossiers et dans ces dossiers-là en particulier, mais dans d'autres dossiers dans d'autres endroits du Canada où des familles se regroupaient parce qu'elles découvraient, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, qu'elles avaient des points communs, c'est-à-dire que certaines des victimes évoluaient dans les mêmes milieux ou qu'elles avaient rencontré les mêmes personnes. Et donc, les familles faisaient elles-mêmes des liens, parfois subjectifs, mais parfois réels, entre les dossiers, et donc se constituaient en groupes de pression qui deviennent beaucoup plus difficiles à gérer pour les corps policiers aujourd'hui, ce qui les oblige à être plus proactifs dans certains des dossiers.
Pour conclure, Stéphane Berthomé, une question que je pose à chaque invité. Connaîtra-t-on un jour, selon vous, la vérité sur ces affaires, sur les meurtres et les disparitions de l'autoroute des larmes?
Ce qui est terrible, c'est que je sais qu'on connaîtra jamais vraiment la vérité. Pourquoi on connaîtra jamais vraiment la vérité? Parce que les crimes qui ont été commis dans cette portion du Canada à cette époque-là sont des crimes qui ont été commis par plusieurs assassins en série. Et donc on ne pourra jamais identifier à la fois toutes les victimes et tous les auteurs de ces crimes-là. Mais on a quand même fait d'énormes pas, on a quand même mis des noms sur des actes criminels, on a envoyé certains de ces criminels en prison. Une partie de toute cette histoire a été mise à jour, il en reste encore une autre. Peut-être que l'évolution encore de moyens technologiques nous aidera là-dedans, mais je crains malheureusement qu'effectivement on ne sache pas jusqu'à la dernière affaire ce qui s'est passé durant ces années-là.
Merci beaucoup Stéphane Berthomé d'avoir participé à ce podcast.
Merci, c'était un plaisir.
Retrouvez d'autres épisodes des Crimes de la Route et l'ensemble de nos podcasts sur le site internet Vinci Autoroute et sur l'appli Radio Vinci Autoroute, une collection disponible également sur YouTube, Deezer, Spotify et sur Apple Podcasts.